substitute me. Et vous, vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Au terme d'une oraison, au terme d'une action de grâce, au terme d'une vie humaine, au terme de l'Église aussi sur la terre. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur d'un mariage. Alors, une spensalité. Alors souvent on dit que le Saint-Esprit a transformé l'Église en un seul. Elle apparaît, elle a préparé. Elle n'était pas prête avec l'Ancien Testament, le figuier qui ne donnait pas de fruits, mais la vigne est présentée dans le contexte comme une épouse. Une épousée qui est toute préparée pour les noces, quoi, pour les noces, pour l'époux. Et on ne peut pas enfin, les textes en tout cas, et puis même la vision ordinaire que nous avons du mariage, c'est que notre âme, vit le mariage avec vit un mariage spirituel avec avec le Christ. Et puis le Christ et l'Église vivent un mariage, et le Christ est l'époux. Dieu a pris chair dans le Christ, et le Christ c'est l'époux, et la nature humaine qu'il a étreint à l'intérieur de lui, c'est son épousée. Le Christ, c'est l'union hypostatique du Christ, et cette étreinte avec la nature humaine, l'union hypostatique, c'est une union entre un époux et un épos. C'est vrai, Zakar, Unakeva, Bara, Elohim, Dieu a créé. Et l'homme, homme et femme, il le créa. Et le Christ, en s'incarnant, a réalisé un mariage, son union hypostatique. L'union de qui fait que le Christ, c'est le Christ, même déjà avant l'incarnation, le Messie d'Israël. Il épouse, il apprend à s'en épouser avec lui. Il la fait grandir. Voilà, et déjà, si bien que quand le pape Jean-Paul II, il a pas déplacé, si je peux dire, la révélation que Dieu a vis-à-vis de nous, une relation de mariage, une relation sponsale. Il n'a pas déplacé, mais pourtant, si, quelque part, il a arraché l'arbre de vie, de la connaissance de l'amour, et il l'a transplanté dans les océans de l'éternité, du sein de la première personne de la très sainte Trinité. Alors, c'est dans l'époux, dans la paternité, dans la première personne de la très sainte Trinité, que le pape va ouvrir les portes de la Jérusalem glorieuse pour qu'on puisse y passer par l'espérance dans une sponsalité qui est celle de la première personne de la très sainte Trinité. Et il y a un mariage entre la deuxième personne de la très sainte Trinité et la première personne de la très sainte Trinité. Alors comment? Vous voyez, on peut toujours dire, il y a un troisième mariage, une troisième manière où le mariage se réalise. Dans les noces de l'agneau, à la fin du monde, tout le monde rentre dans la salle des noces. On les prend de partout. Ils sont pardonnés. Et ils ont tous la robe nuptiale, ils ont tous la robe du... Ils ont tous... Ils sont tous pardonnés, je veux dire, ils ont tous le don parfait. Chaque âme humaine vit à titre personnel un mariage qui, dans la fin de toute chose, concernant, j'allais dire, son amour divin en lui, va au-delà de l'unité de l'amour humain, de l'âme humaine, de sa propre personne avec la personne en Dieu, quoi. Donc il y a un mariage, c'est sûr, et c'est pour ça qu'il y a l'espérance de la résurrection, parce que la personne, dans le mariage spirituel de l'oraison, elle ne peut pas ne pas percevoir qu'il n'y a pas de mariage spirituel s'il n'y a pas la création de quelque chose de nouveau à l'intérieur d'elle. Dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. À ce moment-là, oui, bien sûr, dans le mariage spirituel, il y a la délivrance de tous les péchés, en particulier le péché de la mort, le péché qui provoque la mort, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme dans l'admirable épanouissement du mariage, la sponsalité. La signification sponsale est inscrite dans le corps. Dans l'âme, il n'y a pas spécialement... L'âme n'est pas spécialement marquée dans son essence de vie spirituelle. C'est la même essence de vie spirituelle dans la femme et dans l'homme. Dans l'âme, dans la psyché, on a les mêmes phénomènes psychiques et psychologiques dans l'âme et dans l'homme. Mais dans l'unité spirituelle et surnaturelle et chrétienne de l'âme unie au corps, il y a une différence totale entre l'homme et la femme. Ce n'est pas une distinction, une différence accidentelle, comme on dirait en théologie, hein. C'est une différence qui touche la substance de la personne. Et donc il y a ces trois mariages. Et comme il y a le troisième, celui que nous avons, que le Saint-Esprit a ouvert à l'Église pour qu'elle soit prête pour les noces du sixième jour de la Jérusalem dernière. Comme il y a cette troisième, cette révélation et cette intégration à l'intérieur du mariage spirituel de la Jérusalem glorieuse, et aussi de la sainteté de la vision béatifique dans le mariage des chrétiens, des saints. Il y a la nécessité, il y a l'appel en tout cas, il y a la demande et il y a l'attente que les trois responsabilités, celle du monde agréé de Dieu, celle de l'union hypostatique de Jésus vis-à-vis de la Jérusalem glorieuse et celle de l'appel à la résurrection, l'appel à la résurrection de la chair pour l'accomplissement du mariage spirituel de chacun d'entre nous, et bien les trois doivent devenir un. Spirituellement, les trois doivent devenir un surnaturellement, les trois doivent devenir un en trois, trois en un, divinement. Et donc il faut effectivement être délivré de tout mal pour ça. Trois en un endroit. Mais c'est sûr que nous avons été, quand nous sommes le tabernacle, quand notre corps, notre chair, notre sang, en se mêlant au sang brûlant et divin de notre Seigneur Jésus-Christ, réalise une unité totale avec lui dans l'Église, cette unité du sang ouvre tes portes et ouvre les portes au mariage de l'union hypostatique de Jésus. Quand on s'y introduit, notre sainteté ne nous appartient plus. Elle appartient à la sainteté de l'union hypostatique de Jésus, de l'union du Christ et de l'Église tout entière. Parce que, comme le dit l'Épître aux Corinthiens, le sang de Jésus et l'Épître aux Hébreux, dans cette ouverture d'une chair qui se toute épanouie, désirée, s'efface pour être reçue et donnée, ben, c'est le sang de Jésus qui fait le passage, le chemin, pour rentrer dans l'au-delà de l'unité des dieux. Et l'au-delà de l'unité des dieux se trouve dans le fait que Jésus, c'est l'époux, et que l'Église, c'est l'épousée. Et bien ce passage, il se fait à l'intérieur quand même d'une union ultime avec le Christ et son Église. Et cette union ultime de Christ avec son Église, là où l'union devient sponsale entre l'Église et Jésus comme époux, c'est dans la Jérusalem tout à fait dernière que cela se réalise. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, chapitre 15, il va y avoir le dévoilement et l'appel et l'annonce des noces de l'agneau pour l'apparition de Jérusalem glorieuse. Et il y a quelque chose dans notre baptême qui fait que nous sommes corporellement le temple du Saint-Esprit qui réalise cette émanation de l'unité totale du Christ et de l'Église dans la responsabilité de la Jérusalem dernière qui reçoit le baiser du véritable amour à la plénitude de la résurrection. Quand Jésus s'est incarné, il a épousé la nature humaine tout entière. et l'union entre le Christ époux et la Jérusalem dernière, il faut qu'elle soit portée quand même par une communion. Des personnes, et on sait très bien dans l'union hypostatique, ben, la nature humaine n'a pas de personne humaine. Il n'y a qu'une seule personne dans le Christ. C'est la nature humaine et la nature divine s'unissent. Mais c'est uni d'un fruit de la foi surnaturelle, une cause méritoire. Et c'est pour ça que le mariage entre le Christ et l'Église se réalise que dans le terme terminant, quand l'Esprit Saint s'est saisi et a opéré la résurrection universelle de la chair, alors il y a une communion entre le Verbe de Dieu incarné et le Saint-Esprit, qui est l'acte de la résurrection de la chair. Ce mariage, du coup, peut avoir lieu parce que le mariage est essentiellement une communion de personnes. Et il est déjà présent, on n'a pas besoin d'attendre la dernière résurrection et ce qui se passe après la fin du monde, parce que Marie est ressuscitée d'entre les morts. Le mystère de l'Assomption, le mystère de la Sainte Famille. Dans l'au-delà, ça subsiste quand même dans une épousée. Hein. Et l'épousée, donc, appartient corporellement à ma chair lorsqu'elle est le tabernacle de l'Église. Et donc, le mariage spirituel est un appel à rentrer à l'intérieur du tabernacle corporellement dans notre mariage spirituel du tabernacle de l'Église. À un moment donné, le Saint-Esprit va être donné à l'intérieur de nous, dans une autre Pentecôte. Une autre Pentecôte, c'est une Pentecôte mariale. Mais c'est un sacrement. C'est là qu'on voit que c'est important quand il y a une cathédrale qui brûle. Parce que l'Église est un sacrement. C'est un sacrement. L'Église tout entière est un sacrement d'amour, avec des pierres vivantes, engagées dans l'au-delà de l'unité des deux. Nous ne sommes pas unis au Christ, et le Christ uni à nous, parce que Dieu nous aime, et Dieu sait que nous avons été présentés à lui, dans un amour qui va au-delà de tout. Non, non, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est sponsal. Nous rentrons dans quelque chose qui est une troisième réalité. C'est ni le Christ, ni l'Église. C'est l'au-delà de l'unité des deux. Et ça, c'est un sacrement. C'est un sacrement. C'est un sacrement de... C'est un sacrement de la sponsalité. C'est un sacrement, c'est un signe qui montre, et qui est la porte d'entrée, et qui est aussi la présence réelle, significative, du fait que la première personne de la Très Sainte Trinité, eh ben c'est l'époux. Et que la seconde personne de la Très Sainte Trinité, de ce sacrement, elle est féminine dans le monde incréé. Par elle-même. La sponsalité, elle est féminine. Parce que l'au-delà de l'unité du Christ et de l'Église, c'est un sacrement de la féminité sponsale. Et tout ça, c'est porté par la manifestation de la Très Sainte Trinité, lumineuse d'amour. Et bien, elle est féminine. L'épousée, c'est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Elle est la nourriture délicieuse et qui fait l'extase de la première personne de la Très Sainte Trinité. Et bien quand le mal sera totalement détruit. Délivre-nous du mal. Il n'y aura plus. Quand il n'y a plus de mal, quand le malin a disparu. Quand la grâce a fait sa transformation dans le mariage spirituel de chaque... Déjà, dans le mariage spirituel du sein de la terre, il doit aller jusqu'à cet état où dans la fin, le voile se déchire de la fin elle-même pour qu'il soit le tabernacle de la sponsalité, de l'épouse incréée, une pénétration dans l'incréé. Les trois sponsalités sont un en trois, trois en un. Je vous ai présenté un époux dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est à l'époux que je vous ai présenté. À ce moment-là, il y a. C'est quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi il y a marqué que dans le chapitre 15, pourquoi il y a marqué quand apparaît comme ça l'annonce du mariage et de la sponsalité dans l'Apocalypse, pourquoi ils disent, voilà, il y a 144 000. C'est pas 144 000 pour le nombre, c'est que le mariage il se réalise parce que l'Église, 12, lorsqu'elle est à la puissance de l'épouser, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, 144, est assimilée à l'épouser dans son alpha, assumée dans l'incré, 1000. Et donc lorsque les trois vivent dans mon corps spirituel, pour en être le tabernacle devient le tabernacle de la sponsalité incréée de Dieu. À un moment donné, bien sûr, dans le mariage que nous vivons avec le Christ, le Christ et nous, on est un, une seule chair, un seul sang. Par l'âme et par la grâce capitale, la grâce capitale a vis-à-vis de la grâce sanctifiante reçu une relation sponsale. C'est le mariage spirituel. Mais nous en arrivons maintenant à cette exigence que les trois sponsalités se réalisent en un en trois, trois en un. Et donc il y a même cette fois-ci à l'exigence que l'âme ne soit pas seule. Et que le corps, dans la signification sponsale de son oui, à la fois quasi incréé, puis créé, réponde à l'appel de l'amour de Dieu. Dans la destruction et la disparition de tout mal, délivre-nous du mal. Alors 144 000, ça veut dire quelque chose de très très précis. Ça veut dire que notre mariage spirituel avec le Christ, quand on dit la septième demeure, par exemple, hein, on parle du mariage spirituel, c'est un mariage spirituel avec le Christ, comme disait Marthe Robin. Ça produit quand même des phénomènes, comme par exemple Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'ils parlaient entre eux, ils vivaient ensemble dans ces évocations du mariage spirituel. Eh bien, si quelqu'un rentrait dans le parloir, c'est arrivé plusieurs fois, on les voyait, ils étaient au plafond, ils n'étaient pas sur la terre, ils étaient soulevés à 3 mètres de hauteur là-haut. Et Marthe Robin disait, moi ça m'est arrivé aussi, bien sûr, d'être. Mais ça, ce sont des phénomènes qui prouvent une imperfection. Parce que c'est le mariage de l'âme. Le corps participe si on veut, mais il n'a pas le poids suffisant pour rester lui-même dans l'incarnation de la Terre. Donc c'est le signe d'une imperfection. Tous ces phénomènes, c'est pas des phénomènes d'ailleurs, ce sont des effets de la grâce qui appartiennent à ceux qui vivent du mariage spirituel par l'âme. Mais aujourd'hui, il y a un appel donc à faire que nous puissions dans notre corps primordial, dans la signification spontanée de ce corps, absorber, si je puis dire, dans le poids d'une terre qui s'ouvre jusque dans les profondeurs de la terre, le mariage spirituel en question, et l'attraction véhémente du coup du mariage spirituel de la Jérusalem dernière pénètre en nous et produit dans le mariage de Marie et Joseph à l'intérieur de nous, corporellement, dans une matière vivante, biologiquement aussi, les déterminations de la spontanéité dans le corps spirituel qui trouve sa fécondation, si je puis dire, en eux. Alors à ce moment-là, l'Église, quand elle est présentée de cette manière, elle se prépare. Et elle n'est pas l'Église qui se marie avec Jésus. Non, non. Elle est Jésus vivant et entier dans le Verbe de Dieu. Le mariage spirituel, la spontanéité, est lumière dans le mariage spirituel de la grâce sanctifiante. Il est lumière. Mais vous voyez, il n'a pas cette incarnation dans la capacité de la création de tous les amours possibles de l'éternité. Pour ça, il faut le corps. Sinon, il n'y a pas de différence entre le mariage spirituel de l'ange et le mariage spirituel de l'être humain. Mais la responsabilité dans le mariage spirituel des saints, des baptisés, de ceux qui vivent des sacrements, ne peut pas s'arrêter à sa propre excellence. Celui qui s'arrête à sa propre excellence, vous savez très bien, c'est l'Antichrist. Non, non. Il est tabernacle de la Jérusalem glorieuse et de la transverbération. Dans le mariage spirituel de l'âme, c'est un mariage de lumière avec le Christ. Avec la grâce capitale du Christ, c'est vrai, avec la blessure du cœur du Christ. On fait une seule plaie vivante et on vit son émanation. Qui est sponsale, c'est vrai. C'est vrai. Et quelque part, la partie corporelle de ce mariage vient de cette plaie qui est dans le corps. Bien humain du Christ. Et du coup, on est trans. Percé, on est transglorifié dans ce mariage avec le Christ. Avec Jésus, c'est vrai. Mais dans le mariage de l'Église de la fin, on le sait très bien, c'est une transverbération. C'est pour ça que l'Église apostolique 12 est à la puissance 2. Et donc c'est l'innocence originelle, séparée, si je puis dire, qui est baptisée, qui est emportée, qui reçoit l'amour du Christ à l'intérieur du corps de l'Immaculée Conception, qui rend une et parfaite et immaculée et sans aucun mal la préparation de l'épouser. 144 000 l'Immaculée Conception qui investit substantiellement l'Église dans la puissance de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. C'est ça, 144 000. Quand les enfants vivent ça, quand les enfants sont créés par Dieu pour dire oui à cela, temps sont accomplis. Et lorsque l'Église dit oui à la disparition, si je puis dire, de l'Église, de la terre, accepte de disparaître dans la Jérusalem de l'agneau, alors à ce moment-là, pour être véritablement paraît pour son époux, et ben c'est lié à la, au fait qu'elle va subsister, non pas de manière vivante dans le Christ, mais elle va subsister dans le Verbe de Dieu. Elle va subsister dans le Verbe de Dieu, elle va subsister dans la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Ce sont des petites précisions qu'on fait, qu'on se permet de formuler avec le Saint-Père aujourd'hui, parce que le règne du Sacré-Cœur, le cœur, le Sacré-Cœur, l'amour, est l'amour incarné et glorifié, il est incréé par son hypostase. Il est uni, les trois responsabilités, celle par laquelle la première personne de la Très Sainte Trinité est pour. Celle par appel, par laquelle le mystère de l'incarnation du Christ et de l'Église fait du Christ l'époux de l'Église tout entière, et celle par laquelle la résurrection de la chair est une attente d'espérance pour ceux qui sont dans le mariage spirituel, les trois en un. Ce qui unit les trois en un et un en trois, ça s'appelle le règne du Sacré-Cœur. Jésus, Marie, Joseph et tous les enfants, dans le règne du Sacré-Cœur, vivent l'unique mariage de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité avec l'époux. Voilà comment on pourrait commenter, enfin, voir, pénétrer. Demander au Saint-Esprit de nous faire entendre comme ce qui vient fondre en nous pour se réaliser sans qu'il y ait l'ombre de quelque chose qui n'appartienne pas à ce mouvement incréé de Dieu dans le mystère de l'Église de la fin. Délivre-nous du mal. Parce que dans l'Apocalypse, oui, c'est vrai, à un moment donné, Babylone la Grande disparaît. Et puis, l'Antéchrist aussi. À un moment, la terre s'ouvre. L'Antéchrist ne garde pas sous sa dépendance les libertés primordiales de tous les hommes. Et c'est pas pour autant que le mal n'existe plus. Le péché a disparu. Le péché n'a pas disparu. Pas du tout, hein, puisqu'il y a toujours, comme l'explique l'épître de Saint-Pierre, il y a toujours le malin. La lutte se fait directement entre Lucifer et le mouvement de la signification sponsale quasi-incréée dans le monde incréé. De l'Église de la Terre. C'est une lutte terminale, c'est une lutte avec Satan en direct. La confrontation se fait sans intermédiaire, sans l'intermédiaire des antichrists. C'est une lutte contre le malin. Délivre-nous du mal, c'est aussi délivre-nous de Satan. C'est là qu'on voit que on aura besoin de on aura besoin de cette transfiguration dans l'hostie. On aura besoin des sacrements jusqu'au bout. On peut se lier, quelqu'un qui dirait, par exemple, après l'ouverture du sixième sous l'Apocalypse, oh, ben l'Antéchrist est parti, c'est fini, il n'y a plus de... Tout va bien, il suffit de glisser sur un toboggan et on va vers les noces de l'agneau, on vole libre, et puis tout ça c'est magnifique. Non, parce qu'on voit bien qu'il y a une séparation et on voit bien qu'il y a, ça doit continuer. Et à un moment donné, tout doit être, le mal doit disparaître de la terre. Hein. Et Satan doit être définitivement englouti dans le vide, c'est-à-dire n'a plus le droit d'apparaître dans notre univers. Et ça se fera pas en 3 heures. Ça demandera, comme disait le Padre Pio, ça durera. On n'est pas arrivé à la moitié du pèlerinage de l'Église sur la terre. Il disait, hein. Ça va continuer, hein, la lutte contre le péché, la lutte contre le mal, mais le péché vertical. Et l'Épître de Saint-Pierre explique, hein, bien sûr, qu'on aura besoin de l'hostie et qu'on aura besoin des noces de l'agneau, hein, du sacerdoce, puisqu'on aura besoin de la transverbération et de l'au-delà de la transverbération. Dans le corps spirituel établi, épanoui. Pour réaliser dans l'au-delà des noces de l'agneau, ben, et l'apparition, hein, dans le corps unique du Dieu vivant. De l'émanation de la troisième personne de la très sainte Trinité pour signer la pleine possession de la responsabilité du Père, de la première et de la deuxième personne de la très sainte, dans son émanation agréée. Et lorsqu'elle pourra descendre de cette manière-là, à ce moment-là, le feu va embraser toutes choses et le mal va disparaître de la terre. Ce sera le fruit méritoire de ceux qui vont lutter contre le mal jusqu'à la fin, après le cinquième et sixième saut de l'Apocalypse. Pour ça que la prière du Notre Père qui se termine par « Délivre-nous du mal » faut qu'on puisse la proférer en voyant ce que nous demandons et en espérant peut-être dire oui, si Dieu le veut, à ce que nous en fassions partie jusqu'à la fin, jusqu'à son accomplissement, que nous soyons nous-mêmes dans le oui, que nous fassions partie des 144 000. Ça parce que maintenant quand on dit c'est l'époux, l'Église vit son introduction à l'intérieur du cœur de l'époux, et l'époux c'est le Christ, dire que et l'époux et le Christ donc est époux, enfin donc la deuxième personne de la très sainte Trinité, regardez, c'est l'époux, c'est lui, c'est pas la première personne, mais non, tu ne peux pas. Bien sûr, dès lors que tu comprends que l'Église est un sacrement, et que l'unité du Christ et de l'Église en plénitude de son accomplissement, c'est un sacrement, c'est un signe. C'est un signe. Vivant, réel, efficace, de notre introduction dans la substance sacrée, Dieu d'amour. C'est pour ça que Jésus dit, délivre-nous du mal. C'est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité qui dit ça. Et qui le dit avec tous ceux qui sont avec lui, transverbère. Mais lui aussi le dit, délivre-nous du mal, pour qu'il n'y ait plus que... À l'intérieur des noces, quasi incréées, glorieuses et éternelles, les noces sacrées à l'état pur. C'est pour ça qu'avant on disait, si vous voulez faire oraison, répétez par exemple une centaine de fois comme ça avec un joli refrain, union hypostatique désirée, et puis ensuite dites transverbération dans l'immaculé, mais maintenant il faut rajouter transglorification dans la sponsalité. Vous répétez comme ça une centaine de fois, en sachant que c'est l'hypostase, enfin, l'au-delà de l'unité des deux premières personnes. Dans l'hypostase qui vient actuer notre mariage spirituel, dans la transglorification, la responsabilité incréée. Saint-Joseph qui est visé, hein, transglorification. Transverbération, c'est l'Immaculé qui est visé. Union hypostatique, c'est Jésus qui est visé. Voilà, les trois en un seul cœur, le règne du Sacré-Cœur. Je répète comme ça avec un joli refrain, ces trois. Et je sais, je perçois quand même, surnaturellement, de quoi est ce que j'évoque là, à titre d'aspiration, d'aspiration à l'intime de moi-même, de la substance de Dieu. Et puis après, au bout d'un quart d'heure, 10 minutes que j'ai. C'est introduire, du coup, Saint-Esprit m'y introduire. Et cette attraction véhémente et invincible des personnes divines m'y introduisent. Et puis après, je laisse Dieu faire le reste. Et au bout de la demi-heure qui a suivi, j'ai vécu, hein, des sept demeures. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Si je n'ai plus fait d'autres mouvements, s'il n'y a plus d'autres mouvements, il y a des choses qui m'en empêchent. Des nouveaux mouvements arrivent 5 minutes après que j'ai laissé le Saint-Esprit faire l'opération terminale. Un mouvement. Ça c'est le signe qu'il y a encore quelque chose en moi qui n'appartient même pas à la première responsabilité fondamentale du mariage spirituel. Donc, il faut que je dise, délivre-nous du mal. Dans le mal, il n'y a plus le moindre mouvement de péché. Et le signe, c'est qu'il y a au moins la quiétude, c'est-à-dire le rassemblement des puissances dans une paix parfaite, où c'est la Reine Sacré-Cœur qui opère son silence de lumière. Et de transformation éternelle. Et la transformation éternelle, c'est là, dans l'éternité de l'au-delà de la résurrection unie et de la glorification universelle de toutes choses dans le monde incréé de Dieu. Bien, c'est continuellement des transformations, des créations d'univers, de sponsalités incréées, nouvelles qui vont continuellement se produire dans l'opération du Saint-Esprit. Intérieur, délivre-nous du mal. Voilà. Dieu soit béni.